VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour Nathalie Barge et Anne Albertson.
Au sommaire en ce mercredi 18 mars 2015.
Ebola, ce n'est pas terminé. Mise en garde de Conakry contre un relâchement de l'effort.
Les derniers chiffres de Mantier, il y avait 6 nouveaux cas. Et dans ces 6 nouveaux cas, il y avait, si je ne me trompe, 4 confirmés et 2 suspects.
Le ministre guinéen de la Santé, Rémi Lama.
Au Sénégal, le président annonce l'organisation d'un référendum l'an prochain pour réduire le mandat présidentiel à 5 ans.
Terrorisme islamiste, le Niger à la croisée des chemins entre les groupes extrémistes du Nigeria et de la Libye.
La communauté internationale a la responsabilité d'intervenir en Libye. Tous les chefs djihadistes et autres trafiquants se trouvent dans ce pays-là.
Moussa Aksar, directeur de publication de l'événement à Niamey, dans un reportage de notre envoyé spécial Idriss Fall.
Le chef du nucléaire iranien Ali Akbar Salehi, très optimiste sur un accord au pourparlers de Lausanne.
Le Secret Service a affirmé qu'une lettre adressée à la Maison Blanche contenait du cyanure.
Et avant la Minute Éco et les sports, voici les informations.
Le Nigeria a lancé son dernier assaut contre le groupe islamiste Boko Haram, a déclaré le porte-parole du gouvernement pour les questions de sécurité. Cette offensive militaire intervient après l'annonce de plusieurs succès stratégiques dans le nord-est du pays, avec l'aide des pays alliés. Jean-Roger Bion.
Cette opération militaire a pour but d'anéantir le risque que faisait peser Boko Haram sur toute la région suite à de nombreuses attaques aux frontières des pays voisins. Il s'agit aussi de sécuriser cette zone où les islamistes s'étaient emparés de pans entiers de territoire à la veille des élections présidentielles et législatives au Nigeria. Le scrutin initialement prévu le 14 février a été repoussé au 28 mars à cause de la contre-offensive en cours, les autorités considérant que l'armée occupée sur le front ne serait pas en mesure de surveiller les bureaux de vote. Les deux États voisins d'Adamawa et Yobe ont déjà été libérés du joug de Boko Haram selon Abuja. Pour les trois localités, Abadam, Gwoza et Askira, de l'aide doit arriver, a déclaré à l'AFP Mike Omeri, le porte-parole du gouvernement, qui avait annoncé la semaine dernière que 36 villes en tout avaient été reprises des mains des islamistes depuis le début de l'offensive à la fin du mois de janvier.
Le chef de l'État sénégalais dit vouloir donner l'exemple en Afrique. Macky Sall a parlé hier d'un référendum qu'il a l'intention d'organiser en mai 2016 en vue de réduire son mandat de président de 7 à 5 ans. Un projet à contre-courant de la tendance plutôt inverse sur le continent où certains dirigeants multiplient les mandats, mais également un statut de démocrate que lui contestent ses opposants. Jacques Aristide.
Une déclaration de Macky Sall qui a vite fait écho dans les médias et pour cause, le président sénégalais a évoqué cette éventuel mandat écourté lors d'une rencontre à Dakar avec l'Association de la presse étrangère au Sénégal, la première depuis son investiture en avril 2012. D'après lui, le référendum va permettre une révision de la Constitution, d'abord sur le mandat et ensuite sur quelques autres aspects pour consolider la démocratie, un engagement qu'il avait pris lors de sa campagne électorale. « Vous avez vu des présidents diminuer leur mandat, moi je vais le faire », a déclaré Macky Sall tel que le rapporte l'AFP. Et d'ajouter vouloir ainsi donner un exemple, il faut qu'on comprenne, en Afrique aussi, qu'on est capable de donner la leçon et que le pouvoir, ce n'est pas une fin en soi, a-t-il encore indiqué. Le président sénégalais a par ailleurs affirmé s'impliquer personnellement pour obtenir la libération de militants du mouvement citoyen sénégalais Yan Amar, arrêté à Kinshasa en plein débat en République démocratique du Congo sur un éventuel troisième mandat du chef de l'État Joseph Kabila.
Un policier égyptien sera jugé pour la mort d'une manifestante de gauche en janvier dernier lors de la dispersion d'un rassemblement commémorant le 4e anniversaire de la révolte de 2011 qui avait chassé Hosni Moubarak du pouvoir, indique l'AFP citant une annonce d'un responsable du parquet. Depuis que l'ancien chef de l'armée et actuel président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a destitué Mohamed Morsi en 2013, une loi limitant le droit de manifester permet aux forces de sécurité de réprimer les rassemblements.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Pour parler sur le nucléaire iranien, Ali Akbar Salehi, chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, a affirmé que l'Iran, les États-Unis et les autres négociateurs du groupe des six se sont entendus sur 90% des questions techniques. Mais la Maison-Blanche se veut plus prudente quant à l'imminence d'un accord. Félix Sipassis Zembrou.
Selon M. Salehi, qui parlait à la télévision d'État iranienne, une seule question majeure subsistait et les officiels allaient tenter de la régler dans la soirée de mardi. Il n'a pas dit laquelle. Pour sa part, le porte-parole de la Maison-Blanche, Josh Earnest, s'est contenté de dire que les deux parties ont fait des progrès substantiels au cours de l'année écoulée, mais que les chances d'arriver à un accord avec Téhéran sont toujours de moitié-moitié. Et un autre haut responsable américain qui a requis l'anonymat a ajouté qu'il restait encore du chemin à faire. Les négociateurs réunis en Suisse tentent d'arriver à un accord cadre avant la date butoir du 31 mars pour garantir la nature pacifique du programme nucléaire iranien. Le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue iranien Javad Zarif mènent ces discussions. De cet accord dépend la levée éventuelle des sanctions économiques contre l'Iran.
L'armée américaine a annoncé mardi avoir perdu contact avec un drone d'essai non armé au-dessus de la Syrie. La déclaration du Pentagone est intervenue après un rapport de l'agence syrienne d'État Sana disant que l'armée syrienne avait abattu un drone de surveillance dans la province de Latakia le long de la côte méditerranéenne. Mardi également, l'Observatoire syrien pour les droits de l'homme a accusé les forces gouvernementales syriennes d'avoir largué des barils de gaz toxiques sur la ville de Sarmin, dans la province d'Idlib. Selon l'organisation, 6 personnes sont mortes, dont 3 enfants, et des dizaines de personnes sont intoxiquées. Son rapport inclut une vidéo montrant des nourrissons peinant à respirer.
En Israël, le parti Likoud du Premier ministre Benjamin Netanyahou est en tête dans les résultats préliminaires des élections législatives d'hier. Après dépouillement de plus de 90% des voix, le Likoud de droite a obtenu 30 sièges au Parlement contre 24 à son principal rival, l'Union sioniste de gauche d'Isaac Herzog. Mais 30 sièges, c'est loin de la majorité requise à la Knesset qui en compte 120, d'où la nécessité d'un processus de formation d'une coalition gouvernementale pour le leader politique à qui le président Reuven Rivlin confiera la tâche de former le prochain gouvernement.
Sous le feu des critiques au Congrès américain, le directeur du Secret Service, Joseph Clancy, reconnaît un problème d'alcool au sein de cette police d'élite, chargée notamment de la protection du président des États-Unis. L'image de ce service spécial a beaucoup souffert de récents scandales. Nicolas Pineau.
Oui, pour sa première audition parlementaire depuis sa nomination il y a un mois, Joseph Clancy a été malmené par plusieurs élus, visiblement outrés par le dernier incident en date. Rappel des faits, le 4 mars dernier, 2 agents du Secret Service ont heurté en voiture une barrière de sécurité de la Maison-Blanche après une soirée bien arrosée. Pressé de répondre, le nouveau directeur a donc dû admettre qu'il y a, je cite, des éléments dans l'agence qui font face au stress en se tournant vers l'alcool et qui causent un grand tort au reste du personnel. Selon John Clancy, il n'y a pas d'excuse pour ces actions. Il doit y avoir une autodiscipline, une reconnaissance des responsabilités. Nous devons trouver un moyen d'aider ceux qui se tournent vers l'alcool par mécanisme de protection. On se souvient d'autres incidents, comme un voyage présidentiel aux Pays-Bas, à la veille duquel des agents du Secret Service s'étaient enivrés. Le Secret Service, c'est 6500 membres chargés notamment de protéger le président des États-Unis et une trentaine d'autres personnalités. La dernière directrice de cette agence américaine d'élite, Julia Pearson, avait dû démissionner après une spectaculaire intrusion dans la Maison-Blanche.
Et hier, le Secret Service a révélé qu'une lettre adressée à la Maison-Blanche contenait du cyanure. L'agence a publié une déclaration mardi disant que la lettre avait été reçue la veille dans un centre de dépistage en dehors du campus de la Maison-Blanche. Les premiers tests ont donné un résultat négatif, mais l'agence a précisé que d'autres tests ont conclu à une probable contamination au cyanure. La lettre a été envoyée à un autre établissement pour des tests supplémentaires.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est dans la Minute Éco avec Jean-Roger Bion.
Le comité monétaire de la Banque centrale américaine, la Fed, achève ce mercredi une réunion de deux jours très observée par les marchés, car la Fed pourrait signaler qu'elle va relever les taux d'intérêt dans les mois qui viennent. La présidente de la Fed, Janet Yellen, donne une conférence de presse ce soir, sa première de l'année après la tenue d'une réunion du comité de politique monétaire. Les marchés auront les yeux braqués sur l'événement qui pourrait avoir un nouvel impact sur le dollar. Le billet vert n'a cessé de s'apprécier depuis le début de l'année par rapport à l'euro dans l'anticipation d'une remontée des taux aux États-Unis. Vers la création à Bamako d'une organisation sous-régionale autour du fleuve Comoé, des concertations ont débuté hier dans la capitale malienne en présence des représentants du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Mali et de la CEDEAO. L'organisme du fleuve Comoé est l'une des trois nouvelles organisations de bassin frontalier dont la création est préconisée et soutenue par le Centre de coordination des ressources en eau de la CEDEAO. CMC Motors, un concessionnaire automobile du Kenya, a fait une bonne affaire en obtenant mardi une licence de Ford Motor Company. CMC Motors, une filiale appartenant exclusivement au groupe Al Funtem Automotive, va maintenant bénéficier d'une franchise complète de la Ford Motor Company dans le cadre de son plan de développement de ses affaires. Le Kenya est un marché clé pour nous dans la région de l'Afrique subsaharienne et un tremplin vers le reste de l'Afrique de l'Est, a déclaré à Nairobi Jeff Nimet, le directeur général de Ford Motor Company pour l'Afrique subsaharienne.
Merci beaucoup Jean-Roger pour la Minute Éco. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Nathalie.
Alors le nouveau sélectionneur du Burkina Faso a été officiellement présenté à la presse hier.
Gernot Rohr a été intronisé à la tête de la sélection après le Niger ou le Gabon. Le technicien allemand va donc diriger les étalons vice-champion d'Afrique 2013, mais totalement à côté du tournoi lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Gernot Rohr remplace Paul Put. Salif Kabore était sur place pour son intronisation.
L'objectif majeur pour le nouvel entraîneur est de qualifier les étalons du Burkina à la CAN 2017 et viser la qualification pour la Coupe du Monde 2018. Gernot Rohr, qui disputera son premier match officiel avec les étalons du Burkina Faso le 31 mars prochain contre le Maroc à Casablanca, ne compte pas chambouler l'effectif de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football.
C'est pas le moment de chambouler un effectif qui a disputé une CAN récemment. Donc on va s'appuyer sur le noyau de cet effectif et avec la direction technique et avec l'assistant Brahma, nous avons fait une liste qui s'appuie en grande majorité sur les 23 joueurs qui ont fait la CAN en Guinée équatoriale, une CAN que j'ai pu observer en tant qu'entraîneur libre. Nous avons fait un état des lieux et cet état des lieux nous dit qu'il va falloir quand même apporter de la fraîcheur, un nouveau dynamisme et si possible une confiance qui s'est envolée.
Les attentes de nouvelles coachs vis-à-vis des étalons du Burkina ont été définis.
C'est surtout une attente de la part des joueurs, c'est de tout donner pour leur pays. Le premier critère de sélection, c'est la combativité. Celui qui n'est pas combatif, il n'aura pas sa place dans cette équipe.
L'entraîneur aura pour résidence Ouagadougou et son salaire n'a pas été dévoilé. Ouagadougou, Salif Kabore, VOA Afrique.
Et pour la CAN junior au Sénégal, les choses sérieuses reprennent.
La première demi-finale, c'est tout à l'heure. Elle oppose au stade Léopold Sédar Senghor le Nigeria, premier du groupe A, au Ghana, deuxième du groupe B. C'est une demi-finale 100% anglophone entre les Flying Eagles et les Black Starlets.
Suite des huitièmes de finale de la Ligue des Champions en Europe, battu par Monaco à Londres 3-1 à l'Emirates Stadium au match aller, Arsenal, qui l'a emporté au stade Louis II 2-0, n'est tout de même pas qualifié. C'est Monaco qui est qualifié. Autre match hier soir au stade Vicente Calderón, l'Atlético Madrid recevait l'Everkusen qui a perdu 1-0.
À suivre ce mercredi au Camp Nou, la réception de Manchester City par le FC Barcelone, vainqueur 2-1 à l'aller en Angleterre. Même scénario pour la Juventus de Turin, forte de sa victoire à l'aller 2-1. La vieille dame pourrait être tentée de murer son but face à Dortmund. Enfin Nathalie, quelques résultats de NBA avec vous. Le championnat de basket nord-américain.
Les matchs étaient très serrés hier soir. Détroit a gagné contre Memphis 105 à 95. Les Knicks de New York ont gagné contre San Antonio 104 à 100. Houston Rockets vainqueur sur Orlando Magic 107 à 94. Et New Orleans l'a emporté contre les Bucks 85 à 84.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. En Guinée, le président Alpha Condé a mis en garde hier sur un relâchement des efforts contre Ebola, surtout à Conakry, afin d'éviter une recrudescence de l'épidémie. Un conseiller du coordonnateur national de la lutte anti-Ebola, Sakoba Keïta, a fait état de déplacements entre certaines régions de personnes ayant été en contact avec des malades, donc susceptibles de tomber également malades et de déclencher de nouveaux foyers de contamination. Claire Morin-Gibourg a joint le ministre de la Santé guinéen, Rémi Lama, à son retour de Forêt-Caria.
Effectivement, c'est actuellement cette zone qui continue à produire quelques cas. Et cela est dû au fait que, au dernier moment, j'avais connu des réticences au niveau de cette préfecture. Mais grâce à la sensibilisation aux trans, nous sommes parvenus aujourd'hui à 20 réticences. Et les villages qui étaient fermés aux actes de la riposte, ces villages sont ouverts, ce qui a entraîné aujourd'hui un pic par rapport aux chiffres au niveau des centres de traitement d'Ebola dans cette région.
Est-ce qu'on peut parler d'une reprise de l'épidémie?
Non, les derniers chiffres de hier, il y avait 6 nouveaux cas, et dans ces 6 nouveaux cas, il y avait, si je ne me trompe, 4 confirmés et 2 suspects. La journée d'hier, un seul cas confirmé a été notifié. Et comme je disais tantôt, ce pic est dû à l'ouverture de ces villages qui étaient fermés pour des raisons de réticence. Mais ces réticences sont aujourd'hui vaincues. Donc les populations elles-mêmes font appel aux services de santé, aux humanitaires, afin qu'ils viennent les chercher pour les conduire dans le centre de traitement d'Ebola. J'étais allé faire l'évaluation et aujourd'hui, j'avoue, grâce aux efforts fournis par tous les acteurs de la riposte, l'épidémie est sous contrôle.
Peut-on quand même encore parler de menace Ebola?
Menace Ebola, je dirais non, parce qu'aujourd'hui, grâce à toutes ces mesures qui sont prises, parlant d'abord de ce nouveau médicament, le favipiravir, qui a donné des résultats encourageants à l'endroit. Et aujourd'hui, il est question également de procéder à une combinaison de cette molécule avec d'autres médicaments qui ont été utilisés depuis le début de cette épidémie. Et aujourd'hui, ce sont vraiment des leçons encourageantes qui font que la population, la communauté ont confiance au centre de traitement d'Ebola. Et également, grâce à l'essai vaccinal qui vient de démarrer, nous sommes aujourd'hui confiants également que quand il sera question de la mise en échelle de ce vaccin, je crois que nous ne parlerons plus de menace d'Ebola, car toutes ces mesures sont prises afin que nous puissions contrôler de façon favorable cette épidémie.
C'était le ministre de la Santé guinéen, Rémi Lama.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Journaliste en danger et reporter sans frontières appelle Kinshasa à libérer Eric Izami. Ce journaliste d'Antenne A est détenu dans la prison de l'Agence nationale de renseignement après avoir assisté à une conférence de presse animée par des activistes des droits humains dimanche. Il couvrait le lancement d'un nouveau groupe de la société civile dans la capitale congolaise. Au micro de Camille Gros-Didier, Cléa Kahn-Scriber, spécialiste de l'Afrique à Reporters sans frontières.
Les 3 journalistes pour les médias internationaux ont été relâchés. Un 4e journaliste congolais qui travaillait pour la BBC a été lui aussi relâché après quelques heures passées à l'ANR. Eric est toujours détenu. La raison officiellement donnée, c'est qu'il n'avait pas sur lui sa carte d'identité, sa carte d'électeur, et qu'ensuite il aurait fait preuve d'agressivité au moment de l'interpellation, qui, je le répète, a été quand même assez musclée. Donc ça, c'est les raisons qui ont été données. Mais enfin, même s'il n'avait pas les papiers sur lui, il a dépassé le délai délai légal de garde à vue de 48 heures. Il n'a eu accès, et d'ailleurs aucune des personnes arrêtées n'ont eu accès ni à leur avocat ni à leur famille. Donc on voit bien que là on est dans un cas d'arrestation arbitraire qui malheureusement, étant donné le bilan des autorités congolaises, peut tout à fait se prolonger pendant des semaines. Donc c'est extrêmement inquiétant que ce journaliste soit encore aujourd'hui toujours détenu. Tout ça pour avoir été couvrir une conférence de presse.
D'après le porte-parole du gouvernement congolais, M. Lambert Mende, les participants interpellés auraient été des instructeurs militaires qui préparaient une insurrection. Ça paraît un peu gros.
Oui, tout à fait, d'autant plus que quand on connaît, et je pense que le ministre ferait bien de se renseigner, la nature du balai citoyen ou du mouvement Il y en a marre, c'est exactement l'inverse d'une solution militaire qu'il propose. Au contraire, il propose une solution basée sur les manifestations pacifiques et au contraire, justement, de refuser d'entrer dans ce cycle de violence qui, en fait, peut même justifier et légitimiser l'usage de la force et de la violence contre les manifestants, ce qui est malheureusement quelque chose qu'on a trop souvent vu au Congo et pas plus tard qu'en janvier. Donc je pense qu'en fait ce qui effraie vraiment les autorités congolaises, c'est que justement ce mouvement veut utiliser les moyens de la non-violence et de la manifestation pacifique et que face à ça, ce gouvernement se trouve extrêmement désemparé. Donc il a encore recours à la violence, mais cette violence est intolérable face à des gens qui avancent désarmés avec des banderoles et qui font seulement, par exemple, bon là en l'occurrence une réunion, mais ce matin à Goma, 12 activistes du mouvement ont également été arrêtés alors qu'ils faisaient un sitting pacifique devant les locaux de l'ANR. Donc voilà, le gouvernement, je pense, s'il veut continuer cette politique de répression contre ceux qui essayent de faire entendre des voix divergentes, va de plus en plus se discréditer avec ses méthodes extrêmement violentes.
Cléa Kahn, Scriber de Reporters sans frontières, était jointe à Paris.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur Radio Télé Mwangaza, à Lubumbashi, province du Katanga.
Terrorisme islamiste, le Niger à la croisée des chemins entre les groupes extrémistes de la Libye et du Nigeria qui ont prêté allégeance au groupe État islamique basé en Irak et en Syrie, respectivement l'an dernier et cette année. Un reportage de notre envoyé spécial à Niamey, Idriss Fall.
Boko Haram tue au Nigeria pendant que le groupe État islamique décapite en Libye. Le Niger est pris en étau entre les deux pays. Certains croient que le Niger serait protégé par une barrière naturelle que constitue le désert du Sahara. Madame Issa Khadissa, chargée des femmes travailleuses à la CDTN, la Confédération démocratique des travailleurs du Niger.
Libye, moi je suis sûr, tel que je connais mon gouvernement, ils sont en train de prendre les précautions pour que ces gens ne puissent pas rentrer au Niger. C'est vrai qu'on partage la frontière, mais il y a un grand désert. Pour traverser ce désert, venir nous trouver, c'est pas une petite chose. C'est une autre guerre, traverser aussi le désert.
Le président Mahamadou Issoufou a répété à plusieurs reprises que le travail est inachevé en Libye depuis la chute de Muammar Kadhafi. Moussa Aksar, directeur du journal L'Événement à Niamey.
La communauté internationale a la responsabilité d'intervenir en Libye. Tous les chefs djihadistes et autres trafiquants se trouvent dans ce pays-là. Et si on ne fait pas attention, ils vont se déverser dans tous les Sahels. Et ça constituerait le danger de cette colonne vertébrale qui va de Boko Haram jusqu'à rejoindre l'État islamique en Irak. Donc la communauté internationale a la responsabilité d'intervenir, mais pas des troupes au sol, mais c'est de neutraliser toutes les têtes, tous les chefs djihadistes qui se trouvent dans cette région-là pour ne pas qu'ils viennent contaminer toute la bande sahélo-saharienne.
Et pour tempérer toutes les ardeurs guerrières, Issoufou Bachar, ancien ambassadeur du Niger à Tripoli et président du parti ADP Zoumounchi à Niamey.
Là aussi, il faut clarifier les choses. L'État islamique date de quelques mois, alors que ceux qui sont à Benghazi et qui sont différents de ceux qui sont à Tripoli, eux existaient depuis une trentaine d'années. Ils ont justement fait allégeance à l'État islamique, mais ce qui est sûr, c'est que l'État islamique ne le contrôle pas. Il y a un problème. La Libye, c'est vraiment trois régions regroupées et le clanisme est très important en Libye. Ils se réfèrent à l'État islamique uniquement pour embêter l'Occident. Ils sont totalement indépendants, totalement autonomes. Et je crois que c'est une alliance vraiment circonstancielle et qui n'est pas structurée. En Libye, il ne peut y avoir de solution ni politique ni militaire. C'est la politique de petits pas. Il faut réconcilier les clans, réconcilier les régions et après réconcilier la Libye. Mais une solution globale pour toute la Libye, elle n'existe pas, elle n'existera pas.
Depuis Niamey, Idriss Fall, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, gros plan sur l'allégeance de Boko Haram au groupe État islamique. Est-ce une réaction attendue de Boko Haram face à l'offensive des armées tchadiennes, nigériennes et camerounaises venues soutenir le Nigeria? Qu'apportera cette alliance aux deux groupes djihadistes? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Au Mali, pour permettre aux communautés du cercle de Goundam de vivre ensemble, la communauté Kel Ansar, en collaboration avec d'autres groupes de population, lancera une caravane de la paix et de la réconciliation. Les caravaniers sillonneront les 16 communes du cercle de Goundam avec des messages de paix, d'entente et de vie sociale. À quelques jours du départ, le chef de la tribu Kel Ansar a donné des détails sur cette initiative. Kassim Traoré nous en dit plus.
Parvenir au vivre ensemble entre la communauté de Goundam est le premier objectif de la caravane de la paix et de la réconciliation, car le cercle de Goundam a été le théâtre de différentes attaques des bandits armés. Cela a joué sur le tissu social. Abdelmajib Ag Mohamed Aman, dit Nasser, chef de la tribu Kel Ansar.
Apparemment, le vivre ensemble devient un peu difficile entre les deux communautés, noire et blanche. Donc l'objectif principal de la caravane, c'est de réconcilier d'abord les communautés blanches et les communauté noire, le cercle de Goundam. Et les faire savoir que ce problème qui existe actuellement n'est pas le nôtre. C'est un problème qui a été importé et qu'il faut que les gens s'acceptent, il faut que les gens vivent ensemble comme ça a été toujours fait dans le cercle de Goundam.
L'initiative vient de la communauté Kel Ansar, mais elle ne sera pas seule. Mieux, la caravane a le soutien des autorités maliennes et l'accompagnement de la MINUSMA.
On s'est réconcilié d'abord et on a fait l'ouverture aux soirées, aux piles et aux arabes. Parce que, bon, je me suis dit qu'on ne peut pas ramener la paix sans les autres communautés. Nous allons faire les 16 communes de Goundam. On n'a pas un intérêt personnel dedans. On n'a pas une mission politique. Et je pense que c'est un appui pour l'État malien. Parce que même s'il y a un accord demain, si les communautés ne sont pas réconciliées, donc je ne vois pas comment les gens vont vivre ensemble s'il n'y a pas déjà des initiateurs comme nous pour essayer de réconcilier les gens avant que l'accord ne soit signé.
Face à la situation d'insécurité qui prévaut au Mali, surtout l'attentat terroriste de Bamako, les Maliens doivent comprendre que le terrorisme est une doctrine.
Pour que la population Malien sache que le terrorisme, c'est différent de la rébellion. Le terroriste, il n'a pas de couleur. Il peut être un Américain, il peut être un Français, il peut être un Touareg, il peut être un Bambara, un Peul. L'objectif du terroriste, c'est quoi? C'est détruire les intérêts des Occidentaux et détruire les pays qui soutiennent les Occidentaux. Donc, personne n'est épargné. Ce que je demande à la population malienne, c'est d'être vigilante et de se mettre du côté des autorités maliennes et d'éviter l'amalgame.
Selon le chef de la tribu Kel Ansar, pour bien lutter contre le terrorisme, il faut de la bonne information avec la complicité des populations.
Il faut avoir des renseignements fiables et sécuriser les endroits ciblés.
Il faut signaler que la caravane de la paix et de la réconciliation à Goundam sera sécurisée par les militaires maliens et les casques bleus de la MINUSMA. La caravane aura lieu en début d'avril prochain. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Israël, le Likoud de Benjamin Netanyahou est en tête aux législatives après dépouillement de plus de 90% des voix. Il a obtenu 30 sièges au Parlement contre 24 à son principal rival, l'Union sioniste de gauche. Ce n'est toutefois pas la majorité requise à la Knesset qui en compte 120, d'où la nécessité d'un processus de formation d'une coalition. Une analyse avec le responsable du bureau de la Voix de l'Amérique à Jérusalem, Scott Bob.
Ça dépend des négociations sur la coalition. Maintenant, les partis vont se présenter devant le président, ils vont se consulter, ils vont négocier entre eux pour voir quel individu, quel parti peut forger une sorte de coalition qui va atteindre les 61 sièges du Parlement qui donnerait la majorité. Rien n'est sûr et le président israélien, celui qui doit indiquer dans l'espace de quelques jours quel sera le premier au moins qui va essayer d'accomplir cette tâche. Elle ne sera pas facile selon les analystes israéliens parce que c'est tellement serré et en plus certains des partis de droite qui étaient prévus d'avoir 10 à 12 sièges n'ont atteint que 8 à 10. Les partis de droite avec les partis religieux ont une tendance à pouvoir former un gouvernement plus facilement. Mais il y a eu une autre grande surprise, et c'est que l'union de quatre partis arabes israéliens, d'après ces sondages de sortie qui ne sont pas officiels, recevrait 13 sièges au Parlement, ce qui leur aurait le troisième pouvoir au Parlement. Et donc, ça, c'est une grande étape en avant pour les partis des Arabes israéliens, parce qu'ils pourront mieux défendre leurs intérêts. Beaucoup de jeunes Arabes sont allés aux urnes pour voter, encouragés par cette union. Donc, on peut attendre à quelques changements là qui pourraient même affecter la formation du nouveau gouvernement. Les candidats musulmans avec qui j'ai parlé disent qu'ils sont capables de soutenir la gauche pour faire descendre M. Netanyahou et ses alliés. Mais ils n'entreront pas dans un gouvernement de coalition parce qu'il y a trop de politique de ce gouvernement qui est contre leur peuple.
C'était le responsable du bureau de la Voix de l'Amérique à Jérusalem, Scott Bob, et nous arrivons au terme de cette émission Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson, à la console c'était John Ellison. Avec vous, c'était Nathalie Barge. Très bonne journée à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Nathalie Barge et Anne Albertson.
Au sommaire, en ce mercredi 18 mars 2015.
Ebola, ce n'est pas terminé. Mise en garde de Conakry contre un relâchement de l'effort.
Les derniers chiffres de Montréal, il y avait 6 nouveaux cas. Et bien, c'est 6 nouveaux cas. Il y avait, si je ne me trompe, 4 confirmés et 2 suspects.
Le ministre guinéen de la Santé, Rémi Lama.
Au Sénégal, le président annonce l'organisation d'un référendum l'an prochain pour réduire le mandat présidentiel à 5 ans.
Terrorisme islamiste, le Niger à la croisée des chemins entre les groupes extrémistes du Nigeria et de la Libye.
La communauté internationale a la responsabilité d'intervenir en Libye. Tous les chefs djihadistes et autres trafiquants se trouvent dans ce pays-là.
Moussa Aksar, directeur de publication de l'événement à Niamey, dans un reportage de notre envoyé spécial Idriss Fall.
Le chef du nucléaire iranien Ali Akbar Salehi, très optimiste sur un accord au pourparlers de Lausanne.
Le Secret Service a affirmé qu'une lettre adressée à la Maison Blanche contenait du cyanure.
Et avant la Minute Éco et les sports, voici les informations.
Le Nigeria a lancé son dernier assaut contre le groupe islamiste Boko Haram, a déclaré le porte-parole du gouvernement pour les questions de sécurité. Cette offensive militaire intervient après l'annonce de plusieurs succès stratégiques dans le nord-est du pays, avec l'aide des pays alliés. Jean-Roger Bion.
Cette opération militaire a pour but d'anéantir le risque que faisait peser Boko Haram sur toute la région suite à de nombreuses attaques aux frontières des pays voisins. Il s'agit aussi de sécuriser cette zone où les islamistes s'étaient emparés de pans entiers de territoire à la veille des élections présidentielles et législatives au Nigeria. Le scrutin initialement prévu le 14 février a été repoussé au 28 mars à cause de la contre-offensive en cours, les autorités considérant que l'armée occupée sur le front ne serait pas en mesure de surveiller les bureaux de vote. Les deux États voisins d'Adamawa et Yobe ont déjà été libérés du joug de Boko Haram selon Abuja. Pour les trois localités, Abadam, Gwoza et Askira, de l'aide doit arriver, a déclaré à l'AFP Mike Omeri, le porte-parole du gouvernement, qui avait annoncé la semaine dernière que 36 villes en tout avaient été reprises des mains des islamistes depuis le début de l'offensive à la fin du mois de janvier.
Le chef de l'État sénégalais dit vouloir donner l'exemple en Afrique. Macky Sall a parlé hier d'un référendum qu'il a l'intention d'organiser en mai 2016 en vue de réduire son mandat de président de 7 à 5 ans. Un projet à contre-courant de la tendance plutôt inverse sur le continent où certains dirigeants multiplient les mandats, mais également un statut de démocrate que lui contestent ses opposants. Jacques Aristide.
Une déclaration de Macky Sall qui a vite fait écho dans les médias et pour cause, le président sénégalais a évoqué cet éventuel mandat écourté lors d'une rencontre à Dakar avec l'Association de la presse étrangère au Sénégal, la première depuis son investiture en avril 2012. D'après lui, le référendum va permettre une révision de la Constitution, d'abord sur le mandat et ensuite sur quelques autres aspects pour consolider la démocratie, un engagement qu'il avait pris lors de sa campagne électorale. Vous avez vu des présidents diminuer leur mandat, moi je vais le faire, a déclaré Macky Sall tel que le rapporte l'AFP. Et d'ajouter, vouloir ainsi donner un exemple, il faut qu'on comprenne en Afrique aussi qu'on est capable de donner la leçon et que le pouvoir, ce n'est pas une fin en soi, a-t-il encore indiqué. Le président sénégalais a par ailleurs affirmé s'impliquer personnellement pour obtenir la libération de militants du mouvement citoyen sénégalais Yan Amar, arrêté à Kinshasa en plein débat en République démocratique du Congo sur un éventuel troisième mandat du chef de l'État Joseph Kabila.
Un policier égyptien sera jugé pour la mort d'une manifestante de gauche en janvier dernier lors de la dispersion d'un rassemblement commémorant le 4e anniversaire de la révolte de 2011 qui avait chassé Hosni Moubarak du pouvoir, indique l'AFP citant une annonce d'un responsable du parquet. Depuis que l'ancien chef de l'armée et actuel président égyptien Abdel Fattah el-Sissi a destitué Mohamed Morsi en 2013, une loi limitant le droit de manifester permet aux forces de sécurité de réprimer les rassemblements.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Pour parler sur le nucléaire iranien, Ali Akbar Salehi, chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, a affirmé que l'Iran, les États-Unis et les autres négociateurs du groupe des six se sont entendus sur 90% des questions techniques. Mais la Maison-Blanche se veut plus prudente quant à l'imminence d'un accord. Félix Epassis Zemrou.
Selon M. Salehi, qui parlait à la télévision d'État iranienne, une seule question majeure subsistait et les officiels allaient tenter de la régler dans la soirée de mardi. Il n'a pas dit laquelle. Pour sa part, le porte-parole de la Maison-Blanche, Josh Earnest, s'est contenté de dire que les deux parties ont fait des progrès substantiels au cours de l'année écoulée, mais que les chances d'arriver à un accord avec Téhéran sont toujours de moitié-moitié. Et un autre haut responsable américain qui a requis l'anonymat a ajouté qu'il restait encore du chemin à faire. Les négociateurs réunis en Suisse tentent d'arriver à un accord cadre avant la date butoir du 31 mars pour garantir la nature pacifique du programme nucléaire iranien. Le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue iranien Javad Zarif mènent ces discussions. De cet accord dépend la levée éventuelle des sanctions économiques contre l'Iran.
L'armée américaine a annoncé mardi avoir perdu contact avec un drone d'essai non armé au-dessus de la Syrie. La déclaration du Pentagone est intervenue après un rapport de l'agence syrienne d'État Sana disant que l'armée syrienne avait abattu un drone de surveillance dans la province de Latakia le long de la côte méditerranéenne. Mardi également, l'Observatoire syrien pour les droits de l'homme a accusé les forces gouvernementales syriennes d'avoir largué des barils de gaz toxiques sur la ville de Sarmin, dans la province d'Idlib. Selon l'organisation, 6 personnes sont mortes, dont 3 enfants, et des dizaines de personnes sont intoxiquées. Son rapport inclut une vidéo montrant des nourrissons peinant à respirer.
En Israël, le parti Likoud du Premier ministre Benjamin Netanyahou est en tête dans les résultats préliminaires des élections législatives d'hier. Après dépouillement de plus de 90% des voix, le Likoud de droite a obtenu 30 sièges au Parlement contre 24 à son principal rival, l'Union sioniste de gauche d'Isaac Herzog. Mais 30 sièges, c'est loin de la majorité requise à la Knesset qui en compte 120, d'où la nécessité d'un processus de formation d'une coalition gouvernementale pour le leader politique à qui le président Ruben Rivlin confiera la tâche de former le prochain gouvernement.
Sous le feu des critiques au Congrès américain, le directeur du Secret Service, Joseph Clancy, reconnaît un problème d'alcool au sein de cette police d'élite, chargée notamment de la protection du président des États-Unis. L'image de ce service spécial a beaucoup souffert de récents scandales. Nicolas Pineau.
Oui, pour sa première audition parlementaire depuis sa nomination il y a un mois, Joseph Clancy a été malmené par plusieurs élus, visiblement outrés par le dernier incident en date. Rappel des faits, le 4 mars dernier, 2 agents du Secret Service ont heurté en voiture une barrière de sécurité de la Maison-Blanche après une soirée bien arrosée. Pressé de répondre, le nouveau directeur a donc dû admettre qu'il y a, je cite, des éléments dans l'agence qui font face au stress en se tournant vers l'alcool et qui causent un grand tort au reste du personnel. Selon John Clancy, il n'y a pas d'excuse pour ces actions. Il doit y avoir une autodiscipline, une reconnaissance des responsabilités. Nous devons trouver un moyen d'aider ceux qui se tournent vers l'alcool par mécanisme de protection. On se souvient d'autres incidents, comme un voyage présidentiel aux Pays-Bas, à la veille duquel des agents du Secret Service s'étaient enivrés. Le Secret Service, c'est 6500 membres chargés notamment de protéger le président des États-Unis et une trentaine d'autres personnalités. La dernière directrice de cette agence américaine d'élite, Julia Pearson, avait dû démissionner après une spectaculaire intrusion dans la Maison-Blanche.
Et hier, le Secret Service a révélé qu'une lettre adressée à la Maison-Blanche contenait du cyanure. L'agence a publié une déclaration mardi disant que la lettre avait été reçue la veille dans un centre de dépistage en dehors du campus de la Maison-Blanche. Les premiers tests ont donné un résultat négatif, mais l'agence a précisé que d'autres tests ont conclu à une probable contamination au cyanure. La lettre a été envoyée à un autre établissement pour des tests supplémentaires.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est dans la Minute Éco avec Jean-Roger Bion.
Le comité monétaire de la Banque centrale américaine, la Fed, achève ce mercredi une réunion de deux jours très observée par les marchés, car la Fed pourrait signaler qu'elle va relever les taux d'intérêt dans les mois qui viennent. La présidente de la Fed, Janet Yellen, donne une conférence de presse ce soir, sa première de l'année après la tenue d'une réunion du comité de politique monétaire. Les marchés auront les yeux braqués sur l'événement qui pourrait avoir un nouvel impact sur le dollar. Le billet vert n'a cessé de s'apprécier depuis le début de l'année par rapport à l'euro, dans l'anticipation d'une remontée des taux aux États-Unis. Vers la création à Bamako d'une organisation sous-régionale autour du fleuve Comoé, des concertations ont débuté hier dans la capitale malienne en présence des représentants du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Mali et de la CEDEAO. L'organisme du fleuve Comoé est l'une des trois nouvelles organisations de bassin frontalier dont la création est préconisée et soutenue par le Centre de coordination des ressources en eau de la CEDEAO. CMC Motors, un concessionnaire automobile du Kenya, a fait une bonne affaire en obtenant mardi une licence de Ford Motor Company. CMC Motors, une filiale appartenant exclusivement au groupe Alfontem Automotive, va maintenant bénéficier d'une franchise complète de la Ford Motor Company dans le cadre de son plan de développement de ses affaires. Le Kenya est un marché clé pour nous dans la région de l'Afrique subsaharienne et un tremplin vers le reste de l'Afrique de l'Est, a déclaré à Nairobi Jeff Numet, le directeur général de Ford Motor Company pour l'Afrique subsaharienne.
Merci beaucoup Jean-Roger pour la Minute Éco. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les sports avec Nicolas Pino. Bonjour Nicolas.
Bonjour Nathalie.
Alors le nouveau sélectionneur du Burkina Faso a été officiellement présenté à la presse hier.
Gernot Rohr a été intronisé à la tête de la sélection après le Niger ou le Gabon. Le technicien allemand va donc diriger les étalons vice-champion d'Afrique 2013, mais totalement à côté du tournoi lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Gernot Rohr remplace Paul Put. Salif Kabore était sur place pour son intronisation.
L'objectif majeur pour le nouvel entraîneur est de qualifier les étalons du Burkina à la CAN 2017 et viser la qualification pour la Coupe du Monde 2018. Gernot Rohr, qui disputera son premier match officiel avec les étalons du Burkina Faso le 31 mars prochain contre le Maroc à Casablanca, ne compte pas chambouler l'effectif de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football.
C'est pas le moment de chambouler un effectif qui a disputé une CAN récemment. Donc on va s'appuyer sur le noyau de cet effectif et avec la direction technique et avec l'assistant Brahma, nous avons fait une liste qui s'appuie en grande majorité sur les 23 joueurs qui ont fait la CAN en Guinée équatoriale, une CAN que j'ai pu observer en tant qu'entraîneur libre. Nous avons fait un état des lieux et cet état des lieux nous dit qu'il va falloir quand même apporter de la fraîcheur, un nouveau dynamisme et si possible une confiance qui s'est envolée.
Les attentes de nouvelles coachs vis-à-vis des étalons de Burkina ont été définis.
C'est surtout une attente de la part des joueurs, c'est de tout donner pour leur pays. Le premier critère de sélection, c'est la combativité. Celui qui n'est pas combatif, il n'aura pas sa place dans cette équipe.
L'entraîneur aura pour résidence Ouagadougou et son salaire n'a pas été dévoilé. Ouagadougou, Salif Kabore, VOA Afrique.
Et pour la CAN Junior au Sénégal, les choses sérieuses reprennent.
La première demi-finale, c'est tout à l'heure. Elle oppose au stade Léopold Sédar Senghor le Nigeria, premier du groupe A. Au Ghana, deuxième du groupe B, c'est une demi-finale 100% anglophone entre les Flying Eagles et les Black Starlets.
Suite des huitièmes de finale de la Ligue des Champions en Europe, battu par Monaco à Londres 3-1 à l'Emirates Stadium au match aller, Arsenal, qui l'a emporté au stade Louis II 2-0, n'est tout de même pas qualifié. C'est Monaco qui est qualifié. Autre match hier soir au stade Vicente Calderón, l'Atlético Madrid recevait l'Everkusen qui a perdu 1-0.
À suivre ce mercredi au Camp Nou, la réception de Manchester City par le FC Barcelone, vainqueur 2-1 à l'aller en Angleterre. Même scénario pour la Juventus de Turin, forte de sa victoire à l'aller 2-1. La vieille dame pourrait être tentée de murer son but face à Dortmund. Enfin Nathalie, quelques résultats de NBA avec vous. Le championnat de basket nord-américain.
Les matchs étaient très serrés hier soir. Détroit a gagné contre Memphis 105-95. Les Knicks de New York ont gagné contre San Antonio 104-100. Houston Rockets vainqueur sur Orlando Magic 107-94. Et New Orleans l'a emporté contre les Bucks 85-84.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. En Guinée, le président Alpha Condé a mis en garde hier sur un relâchement des efforts contre Ebola, surtout à Conakry, afin d'éviter une recrudescence de l'épidémie. Un conseiller du coordonnateur national de la lutte anti-Ebola, Sakoba Keïta, a fait état de déplacements entre certaines régions de personnes ayant été en contact avec des malades, donc susceptibles de tomber également malades et de déclencher de nouveaux foyers de contamination. Claire Morin-Gibourg a joint le ministre de la Santé guinéen, Rémi Lama, à son retour de Forêt-Caria.
Effectivement, c'est actuellement cette zone qui continue à produire quelques cas. Et cela est dû au fait qu'au dernier moment, j'avais connu des réticences au niveau de cette préfecture. Mais grâce à la sensibilisation aux trans, nous sommes parvenus aujourd'hui à 20 réticences. Et les villages qui étaient fermés aux actes de la riposte, ces villages sont ouverts, ce qui a entraîné aujourd'hui un pic par rapport aux chiffres au niveau des centres de traitement d'Ebola dans cette région.
Est-ce qu'on peut parler d'une reprise de l'épidémie?
Non, les derniers chiffres de hier, il y avait 6 nouveaux cas, et dans ces 6 nouveaux cas, il y avait, si je ne me trompe, 4 confirmés et 2 suspects. La journée d'hier, un seul cas confirmé a été notifié. Et comme je disais tantôt, ce pic est dû à l'ouverture de ces villages qui étaient fermés pour des raisons de réticence. Mais ces réticences sont aujourd'hui vaincues. Donc les populations elles-mêmes font appel aux services de santé, aux humanitaires, afin qu'ils viennent les chercher pour les conduire dans le centre de traitement d'Ebola. J'étais allé faire l'évaluation et aujourd'hui, j'avoue, grâce aux efforts fournis par tous les acteurs de la riposte, l'épidémie est sous contrôle.
Peut-on quand même encore parler de menace Ebola?
Menace Ebola, je dirais non, parce qu'aujourd'hui, grâce à toutes ces mesures qui sont prises, parlant d'abord de ce nouveau médicament, le favipiravir, qui a donné des résultats encourageants à l'endroit. Et aujourd'hui, il est question également de procéder à une combinaison de cette molécule avec d'autres médicaments qui ont été utilisés depuis le début de cette épidémie. Et aujourd'hui, ce sont vraiment des résultats encourageants qui font que la population, la communauté ont confiance au centre de traitement d'Ebola. Et également, grâce à l'essai vaccinal qui vient de démarrer, nous sommes aujourd'hui confiants également que quand il sera question de la mise à l'échelle de ce vaccin, je crois que nous ne parlerons plus de menace d'Ebola, car toutes ces mesures sont prises afin que nous puissions contrôler de façon favorable cette épidémie.
C'était le ministre de la Santé guinéen, Rémi Lama.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabary FM, Soleil FM et Gangan FM.
journaliste en danger et Reporters sans frontières appelle Kinshasa à libérer Eric Izami. Ce journaliste d'Antenne A est détenu dans la prison de l'Agence nationale de renseignement après avoir assisté à une conférence de presse animée par des activistes des droits humains dimanche. Il couvrait le lancement d'un nouveau groupe de la société civile dans la capitale congolaise. Au micro de Camille Gros-Didier, Cléa Kahn-Scriber, spécialiste de l'Afrique à Reporters sans frontières.
Les trois journalistes pour les médias internationaux ont été relâchés. Un quatrième journaliste congolais qui travaillait pour la BBC a été lui aussi relâché après quelques heures passées à l'ANR. Eric est toujours détenu. La raison officiellement donnée, c'est qu'il n'avait pas sur lui sa carte d'identité, sa carte d'électeur, et qu'ensuite il aurait fait preuve d'agressivité au moment de l'interpellation, qui, je le répète, a été quand même assez musclée. Donc ça, c'est les raisons qui ont été données, mais enfin, même s'il n'avait pas les papiers sur lui, il a dépassé le délai légal de garde à vue de 48 heures. Il n'a eu accès, et d'ailleurs aucune des personnes arrêtées n'ont eu accès ni à leur avocat, ni à leur famille. Donc on voit bien que là, on est dans un cas d'arrestation arbitraire qui, malheureusement, étant donné le bilan des autorités congolaises, peut tout à fait se prolonger pendant des semaines. Donc c'est extrêmement inquiétant que ce journaliste soit encore aujourd'hui toujours détenu. Tout ça pour avoir été couvrir une conférence de presse.
D'après le porte-parole du gouvernement congolais, M. Lambert Mende, les participants interpellés auraient été des instructeurs militaires qui préparaient une insurrection. Ça paraît un peu gros.
Oui, tout à fait, d'autant plus que quand on connaît, et je pense que le ministre ferait bien de se renseigner, la nature du ballet citoyen ou du mouvement Il y en a marre, c'est exactement l'inverse d'une solution militaire qu'il propose. Au contraire, il propose une solution basée sur les manifestations pacifiques et au contraire, justement, de refuser d'entrer dans ce cycle de violence qui, en fait, peut même justifier et légitimiser l'usage de la force et de la violence contre les manifestants, ce qui est malheureusement quelque chose qu'on a trop souvent vu au Congo et pas plus tard qu'en janvier. Donc je pense qu'en fait ce qui effraie vraiment les autorités congolaises, c'est que justement ce mouvement veut utiliser les moyens de la non-violence et de la manifestation pacifique et que face à ça, ce gouvernement se trouve extrêmement désemparé. Donc il a encore recours à la violence, mais cette violence est intolérable face à des gens qui avancent désarmés avec des banderoles et qui font par exemple, bon là en l'occurrence une réunion, mais ce matin à Goma, 12 activistes du mouvement ont également été arrêtés alors qu'ils faisaient un sitting pacifique devant les locaux de l'ANR. Donc voilà, le gouvernement, je pense, s'il veut continuer cette politique de répression contre ceux qui essayent de faire entendre des voix divergentes, va de plus en plus se discréditer avec ses méthodes extrêmement violentes.
Cléa Kahn-Scriber de Reporters sans frontières était jointe à Paris.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur Radio Télé Mwangaza, à Lubumbashi, province du Katanga.
Terrorisme islamiste, le Niger à la croisée des chemins entre les groupes extrémistes de la Libye et du Nigeria qui ont prêté allégeance au groupe État islamique basé en Irak et en Syrie, respectivement l'an dernier et cette année. Un reportage de notre envoyé spécial à Niamey, Idriss Fall.
Boko Haram tue au Nigeria pendant que le groupe État islamique décapite en Libye. Le Niger est pris en étau entre les deux pays. Certains croient que le Niger serait protégé par une barrière naturelle que constitue le désert du Sahara. Madame Issa Khadissa, chargée des femmes travailleuses à la CDTN, la Confédération démocratique des travailleurs du Niger.
Libye, moi je suis sûre, tel que je connais mon gouvernement, ils sont en train de prendre les précautions pour que ces gens ne puissent pas rentrer au Niger. C'est vrai qu'on partage la frontière, mais il y a un grand désert. Pour traverser ce désert, venir nous trouver, c'est pas une petite chose. C'est une autre guerre, traverser aussi le désert.
Le président Mahamadou Issoufou a répété à plusieurs reprises que le travail est inachevé en Libye depuis la chute de Muammar Kadhafi. Moussa Aksar, directeur du journal L'Événement à Niamey.
La communauté internationale a la responsabilité d'intervenir en Libye. Tous les chefs djihadistes et autres trafiquants se trouvent dans ce pays-là. Et si on ne fait pas attention, ils vont se déverser dans tous les Sahel. Et ça constituerait le danger de cette colonne vertébrale qui va de Boko Haram jusqu'à rejoindre l'État islamique en Irak. Donc la communauté internationale a la responsabilité d'intervenir, mais pas des troupes au sol, mais c'est de neutraliser toutes les têtes, tous les chefs djihadistes qui se trouvent dans cette région-là pour ne pas qu'ils viennent contaminer toute la bande sahélo-saharienne.
Et pour tempérer toutes les ardeurs guerrières, Issoufou Bachar, ancien ambassadeur du Niger à Tripoli et président du parti ADP Zoumounti à Niamey.
Là aussi, il faut clarifier les choses. L'État islamique date de quelques mois, alors que ceux qui sont à Benghazi et qui sont différents de ceux qui sont à Tripoli, eux existaient depuis une trentaine d'années. Ils ont justement fait allégeance à l'État islamique, mais ce qui est sûr, c'est que l'État islamique ne le contrôle pas. Il y a un problème. La Libye, c'est vraiment trois régions regroupées et le clanisme est très important en Libye. Ils se réfèrent à l'État islamique uniquement pour embêter l'Occident. Ils sont totalement indépendants, totalement autonomes. Et je crois que c'est une alliance vraiment circonstancielle et qui n'est pas structurée. En Libye, il ne peut y avoir de solution ni politique ni militaire. C'est la politique de petits pas. Il faut réconcilier les clans, réconcilier les régions et après réconcilier la Libye. Mais il y a une solution globale pour toute la Libye, elle n'existe pas, elle n'existera pas.
Depuis Niamey, Idriss Fall, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, gros plan sur l'allégeance de Boko Haram au groupe État islamique. Est-ce une réaction attendue de Boko Haram face à l'offensive des armées tchadiennes, nigériennes et camerounaises venues soutenir le Nigeria? Qu'apportera cette alliance aux deux groupes djihadistes? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TV.
Au Mali, pour permettre aux communautés du cercle de Goundam de vivre ensemble, la communauté Kel Ansar, en collaboration avec d'autres groupes de population, lancera une caravane de la paix et de la réconciliation. Les caravaniers sillonneront les 16 communes du cercle de Goundam avec des messages de paix, d'entente et de vie sociale. À quelques jours du départ, le chef de la tribu Kel Ansar a donné des détails sur cette initiative. Kassim Traoré nous en dit plus.
Parvenir au vivre ensemble entre la communauté de Goundam est le premier objectif de la caravane de la paix et de la réconciliation, car le cercle de Goundam a été le théâtre de différentes attaques des bandits armés. Cela a joué sur le tissu social. Abdelmajib Ag Mohamed Aman, dit Nasser, chef de la tribu Kel Ansar.
Apparemment, le vivre ensemble devient un peu difficile entre les deux communautés, noire et blanche. Donc l'objectif principal de la caravane, c'est de réconcilier d'abord les communautés blanches et les communauté noire, le cercle de Goundam. Et les faire savoir que ce problème qui existe actuellement n'est pas le nôtre. C'est un problème qui a été importé et qu'il faut que les gens s'acceptent, il faut que les gens vivent ensemble comme ça a été toujours fait dans le cercle de Goundam.
L'initiative vient de la communauté Kel Ansar, mais elle ne sera pas seule. Mieux, la caravane a le soutien des autorités maliennes et l'accompagnement de la MINUSMA.
On s'est réconcilié d'abord et on a fait l'ouverture aux soirées, aux piles et aux arabes. Parce que moi, je me suis dit qu'on ne peut pas ramener la paix sans les autres communautés. Nous allons faire les 16 communes de Goundam. On n'a pas un intérêt personnel dedans. On n'a pas une mission politique. Et je pense que c'est un appui pour l'État malien. Parce que même s'il y a un accord demain, si les communautés ne sont pas réconciliées, donc je ne vois pas comment les gens vont vivre ensemble s'il n'y a pas déjà des initiateurs comme nous pour essayer de réconcilier les gens avant que l'accord ne soit signé.
Face à la situation d'insécurité qui prévaut au Mali, surtout l'attentat terroriste de Bamako, les Maliens doivent comprendre que le terrorisme est une doctrine.
Pour que la population malien sache que le terrorisme, c'est différent de la rébellion. Le terroriste, il n'a pas de couleur. Il peut être un Américain, il peut être un Français, il peut être un Touareg, il peut être un Bambara, un Peul. L'objectif du terroriste, c'est quoi? C'est détruire les intérêts des Occidentaux et détruire les pays qui soutiennent les Occidentaux. Donc, personne n'est épargné. Ce que je demande à la population malienne, c'est d'être vigilante et de se mettre du côté des autorités maliennes et d'éviter l'amalgame.
Selon le chef de la tribu Kel Ansar, pour bien lutter contre le terrorisme, il faut de la bonne information avec la complicité des populations.
Il faut avoir des renseignements fiables et sécuriser les endroits ciblés.
Il faut signaler que la caravane de la paix et de la réconciliation à Goundam sera sécurisée par les militaires maliens et les casques bleus de la MINUSMA. La caravane aura lieu en début d'avril prochain. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En En Israël, le Likoud de Benjamin Netanyahou est en tête aux législatives après dépouillement de plus de 90% des voix. Il a obtenu 30 sièges au Parlement contre 24 à son principal rival, l'Union sioniste de gauche. Ce n'est toutefois pas la majorité requise à la Knesset qui en compte 120, d'où la nécessité d'un processus de formation d'une coalition. Une analyse avec le responsable du bureau de la Voix de l'Amérique à Jérusalem, Scott Bob.
Ça dépend des négociations sur la coalition. Maintenant, les partis vont se présenter devant le président, ils vont se consulter, ils vont négocier entre eux pour voir quel individu, quel parti peut forger une sorte de coalition qui va atteindre les 61 sièges du Parlement qui donnerait la majorité. Rien n'est sûr et le président israélien, celui qui doit indiquer dans l'espace de quelques jours quel sera le premier au moins qui va essayer d'accomplir cette tâche. Elle ne sera pas facile selon les analystes israéliens parce que c'est tellement serré et en plus certains des partis de droite qui étaient prévus d'avoir 10 à 12 sièges n'ont atteint que 8 à 10. Les partis de droite avec les partis religieux ont une tendance à pouvoir former un gouvernement plus facilement. Mais il y a eu une autre grande surprise, et c'est que l'union de 4 partis arabes israéliens, d'après ces sondages de sortie qui ne sont pas officiels, recevrait 13 sièges au Parlement, ce qui leur aurait le troisième pouvoir au Parlement. Et donc, ça, c'est une grande étape en avant pour les partis des arabes israéliens, parce qu'ils pourront mieux défendre leurs intérêts. Beaucoup de jeunes arabes sont allés aux urnes pour voter, encouragés par cette union. Donc, on peut attendre à quelques changements là qui pourraient même affecter la formation du nouveau gouvernement. Les candidats musulmans avec qui j'ai parlé disent qu'ils sont capables de soutenir la gauche pour faire descendre M. Netanyahou et ses alliés. Mais ils n'entreront pas dans un gouvernement de coalition parce qu'il y a trop de politique de ce gouvernement qui est contre leur peuple.
C'était le responsable du bureau de la Voix de l'Amérique à Jérusalem, Scott Bob. Et nous arrivons au terme de cette émission « Ainsi va le monde aujourd'hui ». La mise en onde était assurée par Anne Albertson. À la console, c'était John Ellison. Avec vous, c'était Nathalie Barge. Très bonne journée à tous.
Soyez au cœur de l'info.